Spurs has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the floor.
Bonjour à tous et bienvenue sur Money Time. Money Time, c'est votre émission basket sur graphite, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, on décrypte la culture basket sous toutes ses formes, et dans laquelle on explore des dimensions parallèles étonnantes dans lesquelles, par exemple, Jimmy Butler n'est pas blessé, Ben Simmons a un shoot, ou les Wizards ont un avenir. Money Time a aussi sa page Facebook qu'on vous invite à découvrir et à liker, et surtout si vous avez envie de gagner des cadeaux. D'ailleurs, vous avez jusqu'à la pause musicale, dont 15 minutes en gros, pour participer au Money Time Gift avec aujourd'hui une magnifique chemise Mitchell & Ness des Warriors, taille L, je précise. Donc à remporter si vous likez l'émission du jour. Au programme de cette émission, justement, les actus fraîches de la planète basket, le retour sur les matchs NBA qui ont retenu notre attention la nuit dernière. Et spoiler, on va parler du in-tournament. La story d'un joueur légendaire, avec aujourd'hui The Answer, Allen Iverson. L'histoire d'un logo NBA, celui des Golden State Warriors. Notre concours, évidemment, Money Time Gift, où on tirera au sort le vainqueur, qu'on vous donnera en direct. Et notre buzzer beater du jour, c'est quoi un bon coach, qui nous permettra de conclure par une interview, celui de Wani Mugunguzi, le coach de Landerneau en Wonder League, la boulangère. Alors mes compères, pour animer cette émission, l'homme qui met du piment dans vos vies et du sel dans vos pâtes en blanc, à défaut de mettre du beurre dans vos épinards, Mehdi, bonjour.
Salut les potos.
Alors Mehdi, il a un drôle d'accent aujourd'hui, hein, parce qu'il va parler un peu du nez.
Ouais, c'est
bien malade.
C'est l'hiver, quoi.
Voilà.
C'est un gros rhume.
Il est à Money Time ce que Maître Capello était au jeu de 20h. Alors seuls les gens depuis 45 ans savent de quoi je parle. Hein. Un dictionnaire, une encyclopédie, que dis-je, un lexique à lui tout seul, voici Bruno.
Oh là là, bonsoir.
Ouais,
salut.
Je suis gentil avec vous aujourd'hui.
Ouais, ouais, t'es gentil. Ouais.
Il porte sur ses puissantes épaules le poids d'une émission, je dirais même plus d'une nation, je dirais même plus de l'Europe entière. Plus solide que le gouvernement de Michel Barnier, il se rit d'émotions de censure.
Monsieur.
Vous avez des émotions de censure, les gars ?
49-3.
Donc c'est WAM. Bienvenue à WAM.
Bienvenue.
Allez, on est parti, on lance notre première rubrique. Et d'ailleurs, notre jingle, voilà, il va être un petit peu en adéquation avec notre sujet principal de cette émission. Alors justement, dans l'actu de la balle orange, aujourd'hui, messieurs, on va commencer par Paris et l'Euroleague, la belle histoire de l'Euroleague justement. Est-ce que cette histoire peut durer? Si oui, jusqu'où? En tout cas, la France se porte bien dans la plus prestigieuse des compétitions du vieux continent. Et hier, le Paris Basket, dont on a parlé à plusieurs reprises au cours des dernières émissions, a enchaîné quand même une 9e victoire consécutive contre le Maccabi Tel Aviv.
C'est propre.
C'est propre, hein. C'est porté par un TJ Short qui était incandescent et depuis un mois et qui est devenu, qui a été récompensé par le titre de joueur du mois en Euroleague.
C'est pas volé.
Clairement, je pense qu'il le méritait. Alors, du coup, Paris prend seul les commandes de l'Euroleague pour ce qui est, on le rappelle quand même, sa première participation. Donc l'équipe rookie est en tête après quelques matchs quand même, parce qu'on n'est pas au début de saison, là clairement en Euroleague.
Ouais, puis on peut plus dire non plus que c'est une surprise quand tu commences à enchaîner comme ça, les équipes elles doivent se préparer.
Ils étaient pas très bien partis en plus, c'est ça qui est fou, quoi.
13 matchs joués, ouais. Ils sont à 10-3.
Donc 10-3, et comme dans le même temps, alors on fait de façon très générale, mais comme Monaco est en très bonne position aussi, les Monégasques, alors ils sont plus habitués à jouer les premiers rôles, mais ils sont quand même imposés chez le Panathinaikos lors de la dernière journée, ils rejouent ce soir, ils pointent à la 4e place.
Ah, le changement de coach a fait du bien à Monaco, on sent que la dynamique est repartie.
Ouais, Spanoulis, ancien joueur grec légendaire.
Ils arrivent à avoir des bons coachs quand même, Monaco.
En tout cas, le message a l'air de passer. Ça va.
Bah, sélectionneur grec aussi. C'est lui le sélectionneur, je crois, de l'équipe, l'équipe nationale.
C'est un coach qui est, qui est très bien coté, qui est reconnu. Et je pense qu'il fallait du changement à Monaco. Ils ont bien fait. Le nouveau discours a l'air de passer. Hein.
Et puis alors, pour terminer sur les clubs français, l'ASVEL s'est joint à la fête, puisque l'ASVEL a relevé la tête en tapant hier ni plus ni moins que le Real Madrid sur un flotteur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la dernière seconde de Paris Lee.
Tranquille en plus. Hein.
Ouais, vraiment. Hein. On sentait que c'était calculé, hein, vraiment buzzer derrière, rideau. Donc non, je n'étais plus, les clubs français vont bien. Et du coup, c'est bien, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça donne encore plus envie de s'intéresser à cette Euroleague qu'on découvre un peu cette année dans Money Time.
Ouais, mais c'est bien. Après, pour voir les matchs, il faut quand même...
Faut se battre.
Il faut se battre, mais on peut voir pas mal de résumés sur les sites internet. On voit pas mal de résumés. Moi, je vois les résumés, je vois pas les matchs en direct.
Oui, les matchs en direct, c'est vrai que... Il faudra évoquer un jour, aujourd'hui, combien il faut d'abonnements. Bon, les gens qui aiment le foot sont un peu dans la même situation.
C'est ça, ils connaissent ça.
Il faut 18 abonnements différents pour pouvoir suivre un sport qu'on aime. Ouais, c'est vraiment moyen, ça. Enfin, voilà, en tout cas, les clubs français vont bien, et c'est tout l'inverse de LeBron, qui, une fois n'est pas coutume, a connu à titre perso une semaine, disons, compliquée. Alors, pour résumer... LeBron a semblé fatigué. Il a joué moins bien, il a affiché un différentiel quand il était sur le terrain très négatif, dans les défaites répétées des Lakers de ces derniers jours. Et comme si ça ne suffisait pas pour lui, sa boîte de production, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Spring Hill Company affiche désormais 28 millions de déficit.
Oh, c'est juste une question d'argent, c'est pas le...
voilà.
C'est juste le détail.
Alors bon, ça, c'était pas une bonne semaine pour le King. Alors disons-le clairement, une semaine morose pour lui, ça ressemble à une semaine magique pour nous tous, on est d'accord, même ses stats. Et si les performances en demi-teinte de LeBron sont un peu plus conformes à son âge, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, ses 40 ans aujourd'hui.
Non, c'est décembre, je crois. Fin décembre ou début janvier, non? C'est pas un truc comme ça?
Aucune idée.
Je crois que c'est décembre, même ça. Et t'as reçu une invite?
Non, pas encore.
Pas encore.
J'attends.
Ça aurait tardé, à mon avis.
Il va se passer un truc.
En tout cas, c'est conforme à son âge. Mais moi, à titre perso, j'en profite pour dire que je trouve quand même hallucinant de le descendre derrière comme il se fait descendre. Parce que le problème des gens, quand tu les habitues à manger chez Alain Ducasse tous les jours, c'est que le jour où tu passes à 2 étoiles au Guide Michelin, les invités, ils contactent tout de suite Philippe Etchebèche et son équipe de Cauchemar en cuisine. Donc vous trouvez pas que c'est un petit peu violent, non ?
Ouais, c'est un peu violent, ouais. Surtout, enfin, il est pas non plus. Il suffit qu'il y ait justement Anthony Davis qui soit pas en forme en même temps, parce que là c'est un peu le truc, c'est que aussi les deux sont pas au taquet, la bonne dans le.
Ouais, puis
dans le même contexte.
Ouais, il a 40 ans, c'est pas non plus.
Il arrive à maintenir sa série à plus de 10 points là.
Oui.
Il rame.
Je pense que c'est son objectif. Il est arrivé à 10 tremblotant. Mais bon, il est quand même à 0 sur 19 séries en cours à 3 points. Il devrait se rapprocher un peu du cercle. C'est comme tous les joueurs qui sont pas en confiance. Arrive à un moment, rapproche-toi du cercle.
Et après, tu recules, quoi.
Oui. Tu disais très justement hors antenne que le souci, c'est que LeBron, en fait, là, à l'heure actuelle, bon, déjà, il a son âge, mais c'est surtout qu'il ne veut pas se reposer.
Oui,
quoi.
C'est ça, c'est qu'il veut jouer tous les matchs. Alors, je pense, moi, personnellement, je pense que c'est lui qui décide, que son entraîneur fait un peu comme lui demande, mais je pense qu'il devrait arriver à le convaincre à laisser passer un ou deux matchs, prendre 5-6 jours de repos consécutifs.
C'est ce qu'il a annoncé, il veut jouer les 82 matchs, mais c'est vrai que ça semble compliqué.
Faire, quoi. Si c'est pour en faire 82...
Après, clairement,
en face fait tourner,
les Lakers ne tournent pas super. Est-ce que c'est uniquement la faute de LeBron? Est-ce que cette équipe, elle peut viser beaucoup plus haut que ce que... Voilà. Quand tu as D'Angelo Russell dans ton équipe, est-ce qu'il ne faut pas virer le chien noir d'abord? C'est méchant ce que je dis.
Ça dépend du jour avec Russell. Hein. Ça dépend s'il a envie de jouer, s'il n'a pas envie de jouer, s'il met dedans, s'il ne met pas dedans. C'est...
Bon, en tout cas, voilà, on en est là pour LeBron, mais moi, je suis persuadé qu'il va rebondir un peu de temps. Laissez-lui un petit peu de temps.
Ce qu'il y a, c'est que ça semble un peu physique, quand même. Tu sens qu'il est un peu...
Ça que moi, je le mettrais un petit peu
fatigué,
au frais.
Ouais. Parce que même là, il a loupé, il prend un shoot à un moment, on le voit. Il prend un shoot, il va prendre son rebond. Donc, il va prendre son rebond.
Il rate le... Derrière. Bah, ça arrive au meilleur, hein, même à nous, le jeudi soir, régulièrement, nous arrive de rater des layups.
Non.
Ah bon, ça m'arrive. On continue avec les affiches des quarts de finale du NBA In-Season Tournament, hein, qui sont enfin connues. Alors, c'est étonnant, mais les finalistes de l'année dernière sont à la trappe, puisque c'était les Lakers et les Pacers, donc ils n'ont pas passé le premier tour. Les Cadors, il y a quand même une grosse partie des Cadors qui sont absents du tableau final. Hein. Boston et Cleveland, qui sont patrons de l'Est, sont sortis, ouais. Alors qu'ils n'avaient pas des mauvais stats. Bon, alors Cleveland, ils se sont fait taper dessus deux fois de suite par Atlanta, du coup, qui
ne va
pas se qualifier.
Ouais. Ce qui est terrible, c'est que enfin, leurs trois premières défaites, c'est les trois matchs de...
De play-in.
Ouais,
de play-in.
Donc, bon, voilà, en tout cas, pas de Boston, pas de Cleveland, c'est bien, ça laisse peut-être un petit peu les choses ouvertes pour tout le monde. Un petit point où, sur là où nous en sommes, donc à deux semaines de la finale, puisqu'elle arrivera à peu près dans deux semaines, pour la deuxième édition de ce tournoi qui est un peu particulier quand même, parce que noyé en début de saison régulière, il arrive très très vite. Moi j'ai toujours un coup de gueule à pousser contre les parquets, hein. Oh. Je raye la rétine, moi j'ai fait des infections oculaires. Hein,
celui de Denver, il est horrible, là, le jaune là. Il te brûle les yeux celui-là.
C'est vrai, je pense qu'ils vont avoir des problèmes. Hein,
et puis même, c'est difficile de voir le ballon des fois, c'est difficile de voir l'arbitre.
On est d'accord.
C'est difficile quoi. Difficile.
En tout cas, je vous donne le programme des quarts de finale, messieurs. Donc le 10 décembre, on aura le droit à un Bucks Magic.
Ouais, étonnant.
Bon, les Bucks ont redressé la tête, ont profité justement de ce tournament pour
ouais, eux ça leur fait du bien, ils aiment bien ce truc, ils étaient déjà bien qualifiés l'année dernière
en finale à l'Est l'année dernière.
Donc face au Magic qui aussi ouais, alors je suis pas sûr que Banchero soit de retour d'ici là.
Ouais, c'est plutôt annoncé janvier, ouais, Banchero. Donc, bon, mais voilà. Il tourne bien sans lui en même temps.
Mais là, on en reparlera après. Hein. Une des grosses affiches, si ce n'est pas la plus belle affiche, c'est le Thunder Mavericks.
Ah oui, celui-là.
Dallas, donc, contre Shai Gilgeous-Alexander et sa bande contre Luka Doncic et les siens. Ça devrait faire des étincelles normalement.
Ouais, sachant qu'au KC, là, ils ont quand même récupéré les grands. Ça joue quand même mieux.
Ah bah, Hartenstein, il fait un retour, mon gars. Ça fait du bien. Hein.
Ouais, disons, quand il est dans la raquette, le panier est moins accessible tout de suite.
Tout de suite, il prend plus de place.
Ouais. Ah, puis l'engagement, quoi. L'engagement du gars, enfin, il est...
Ah, puis il sait qu'il est là pour faire le mauvais boulot, lui. Ouais.
C'est vraiment ce qui manque aux Knicks, quoi. Tu vois qu'ils ont perdu ce...
On en parlera justement des Knicks après, parce qu'il y a effectivement, tu évoques un changement de jeu, un credo, clairement pour les Knicks, dont on va parler après. Un Rockets Warriors aussi, qui ne devrait pas être des plus désagréables, avec des bons méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Alors, quoique, il y a Draymond Green, Golden State, qui vaut tous les méchants de Houston.
Il est calme cette année, hein, c'est même bizarre.
Très calme pour l'instant.
Ouais, il joue moins aussi. Hein. Ouais. Il joue beaucoup moins. Et Houston, c'est vraiment une belle équipe, hein, par contre.
Tout à fait. Hein. Ils ont vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, ils s'appuient sur une défense qu'on soupçonnait pas possible de
lancer.
Je les vois
bien gagner, moi, le play-in.
Ouais, moi c'est pareil. Je sais pas pourquoi. J'ai une petite impression aussi que.
Ah ouais.
Ouais. T'es pas convaincu, mais on en reparlera.
Je pense qu'au KC, ils vont vouloir mettre les points sur les.
Ah, peut-être aussi.
C'est possible aussi. Hein.
Ouais. On va gagner ça, puis on ira chercher le titre.
En tout cas, ça promet quelques beaux matchs. Normalement, arrive au quart de finale. La finale se jouera à Las Vegas.
Même la demi.
J'ai pris vos billets, les gars.
Les demi aussi, ouais.
Mais moi, je peux être présent à Las Vegas que pour la finale, je vous le dis.
Ouais.
On avait prévu de faire une semaine à Las Vegas. Voilà.
14 et 17.
La dernière fois, je me suis retrouvé avec greffer une paire de seins à la soirée. Donc, bon. Allez, on enchaîne sur la rubrique suivante. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Back it in. It counts. It counts. J'adore ce moment, je ne me lasse pas de ce petit jingle. On en parlait juste avant, le In-Tournament donc, a achevé sa phase de poule avec des rencontres qui, on le rappelle, concernent également la saison régulière. C'est-à-dire que bon, voilà, ça compte pour les deux classements. En réalité, alors, sur les matchs qui ont eu hier, puisque c'était la dernière journée des phases de poule, sur les 11 matchs, bon, en termes d'affiches intéressantes et équilibrées, du moins sur le papier, on retiendra... quelques affiches dont je vous propose de parler rapidement et ça nous permet de rebondir sur ce que vous disiez juste avant. Donc le New York-Orlando de cette nuit, hein, les Knicks ont fait honneur à leur nouveau credo dont tu parlais, c'est-à-dire l'attaque, avec un 5 ultra efficace, hein, et un Josh Hart qui réalise un triple-double. Lui, quel joueur quand même, enfin, on en reparlera, mais c'est quand même un sacré guerrier à avoir dans son équipe, lui. Les épaules des frères Wagner, elles étaient bien présentes, elles sont larges, hein, 30 points pour Franz, 20 pour Moritz, mais je sais pas si ça vous a fait pareil, j'ai l'impression que celle de Banquero,
elle manque clairement.
Sur un match comme ça, où il y a une armada en face, ça manquait d'options peut-être pour le Magic.
Ouais, les Knicks, c'est, enfin, ça a quand même bien tourné, c'est bien rentré, c'est... Ça a été un match assez facile, hein, parce qu'à la fin, à la fin, il y a quoi, il y a 30
le score final...
121-106.
Ouais, 121-106, donc il y a 15 points.
Mais pendant le match, il y a un gros éclat, après.
Oui, le match est vite joué. En fait, l'affiche était intéressante, mais on a sorti alors, le 5 de New York, plus McBride en remplaçant. Ouais. Putain, ça apporte.
Disons qu'à New York, il y a eu un gros changement ces dernières semaines, c'est que Jalen Brunson, il s'est mis en route, là. Ouais. Et il maîtrise bien son équipe, il a fait jouer comme il veut, au rythme où il veut.
Ouais. Puis, il n'a pas trop scoré. Hein,
il ne joue pas tant que ça, il joue que 26 minutes cette nuit.
C'est bien, Tom Thibodeau, il a peut-être essayé de l'économiser.
Ouais. Mais non, mais il joue 26 minutes parce que je te dis, le match, il est vite bouclé. Hein. Ouais. Donc après, c'est frigo, puis on joue avec les petits. Et Karl Anthony Towns, c'est pareil, hein, il commence à bien se mettre en route. Alors, c'est quand même un sacré joueur.
Towns est très critiqué pour sa défense, mais alors en attaque.
Ça a toujours été la défense, mais.
Mais bon, finalement, en changeant cette tactique de jeu, alors est-ce que ça pourra fonctionner en play-off ? Quand le jeu va se ralentir, on jugera. Hein. Mais en tout cas, on peut pas nier que Towns... bon, New York gagne. Ouais, Towns est au... Enfin, franchement, fait un début de saison époustouflant. Il y a 13 rebonds de moyenne, je crois. Hein. C'est un des meilleurs rebonds.
Cette nuit, c'est 23-15.
Donc, 23 c'est quand même
15 rebonds. Ouais.
En tout cas, les deux équipes sont qualifiées. Bon, voilà, il n'y avait pas trop d'enjeux finalement entre les deux. Donc, du coup, on passe au Dallas-Memphis de la nuit, avec un Doncic de retour de blessure, hein, et dans ses standards, tranquille. Donc, les Mavs profitent de cette victoire pour valider difficilement quand même, hein, leur ticket. Morant a tout essayé, mais
alors la fin du match, ils les ont assassinés à 3 points, ils en mettent 4 de suite, là, et tu fais. Pff,
alors, justement, sur cette
dommage.
Fin de match. Donc ils sont appuyés sur le secteur intérieur, hein. On sent quand même que les intérieurs de Dallas sont régalés.
Lively, il a fait un top 10 tout seul, hein,
il a mis quelques dunks. C'est pareil, PJ Washington aussi, qui fait quand même une sacrée saison.
Le dagger, c'est lui, hein, à la fin.
Ouais, c'est lui qui plante le 3 points. En tout cas, il y a un élément de discorde, hein, c'est les stats au lancer franc. Je ne sais pas si vous avez capté, mais 14 lancers francs tentés pour Memphis, 44 pour Dallas. Ouais. 30 d'écart.
Il jouait à domicile.
Alors Dallas verra l'écart, hein, mais ça a un peu tiqué du côté de Memphis. Voilà. Il y aura peut-être une belle revanche à voir par la suite en play-off.
Ouais, tu vois, si c'est une rencontre de play-off, ça peut être très intéressant.
Ouais.
Ouais, il est quand même obligé de jouer 40 minutes, il joue Doncic sur le match.
Ouais, tu peux pas trop t'économiser sur l'équipe de Memphis en phase. On passe au Denver Golden State. Hein. Alors, même si les Warriors étaient d'ores et déjà qualifiés, une opposition entre Cador de l'Ouest et la centrale nucléaire nommée Jokic, c'est toujours un match à prendre au sérieux. Et ce fut le cas, mais dans une opposition de style, la bande à Nico quasiment au complet, hein, ou au complet, et appuyé là où ça fait mal, on vous laisse deviner à quel endroit du terrain. Et on vous laisse deviner aussi quel joueur a compilé 38 points, 10 rebonds, 6 passes et 4 interceptions.
Que 6 passes, quoi.
C'est pas fou.
Il n'est pas top en ce moment.
C'est pas génial. C'est un peu juste, ouais.
Alors, les Warriors ont quand même balancé 38 shoots à 3 points pour seulement 12 réussites. Mais finalement, le score, c'est 119-115. Il n'y a que 4 points d'écart. En sachant que les Nuggets étaient menés de 7 points à 2 minutes 30 de la fin et que les Nuggets sont infligés à 11-0 pour terminer.
Ouais, ils ont très mal géré leur fin de match, les Warriors. Alors, je sais pas pourquoi Curry monte pas la balle à la fin. C'est jamais lui qui monte la balle. Et après, ils essayent de le chercher.
J'ai vécu un match en demi-teinte.
Ouais, après, ils essayent toujours de le chercher, mais ils y arrivent plus parce que
tout le monde sait que Curry va la balle.
Puis ça commence à défendre dur. Hein. Et le truc des Nuggets, c'est qu'ils ont quand même récupéré tout le monde. Là. Et on sent quand même quand tout le monde est sur le parquet.
C'est quand même sympa. Surtout que les absences font que les autres progressent. Ouais. En fait, c'est ça, une équipe, quand tu as deux titulaires d'absents, les joueurs du banc vont trouver du temps de jeu. Donc ils vont avoir l'occasion de se montrer. Ils veulent continuer à avoir du temps de jeu, donc ils continuent à performer. En tout cas, voilà.
À Denver, il y a le petit Watson. Là.
Ouais, il est
bon, lui. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, et du coup, ça leur fait un banc.
Alors, il n'est pas gagnant au début de saison. Aussi, hein. J'avais pas fait gaffe qu'Aaron Gordon était.
Si, il était là. Retour. Était là. Oh, à un moment, il te met une claquette dunk à une
il
main.
Encore du 15 points, 9 rebonds, 5 passes.
Oui, c'est propre. Pour terminer, très rapidement, le Sacramento-Houston, où les expulsions de Sengun et du coach Ime Udoka ont facilité la victoire de Sacramento. Hein. C'est une équipe un peu désespérante, Sacramento, hein, qui est capable du meilleur comme du pire. Mais au moins, ils ont su garder leur nerf, à la différence des Rockets, qui sont un peu les nouveaux bad boys de l'Ouest. Il va falloir se calmer un peu pour la suite du tournoi, peut-être, quand même. Parce que tu disais, Houston, tu les vois loin, moi, c'est pareil. Il va falloir maîtriser ses nerfs. J'ai l'impression que Udoka, c'est quand même un mec qui est un peu sanguin, non, sur les bancs.
Bah, il est un peu sanguin, puis en plus il joue les Warriors, c'est ça, Win Tournament.
Oui, je crois. Ouais. Ouais.
Il y a quand même un spécialiste en face. Du méchant mètre carré. Ouais, non, mais il y a quand même un spécialiste en face qui sait faire péter les plombs aux autres.
Hein. Après, c'est le défaut de leur qualité, quoi. Ils sont tellement agressifs aussi, tellement hargneux les Rockets que forcément, bah, il y a des
gens. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y avait c'était Trash Talk qui avait fait une super émission sur ça. Ils expliquaient justement que à force d'être très présent défensivement, parce que Van Vliet c'est un très bon défenseur aussi, hein, on l'oublie.
Bah ouais.
Mais ça explique aussi les trouées offensives que les deux arrières peuvent avoir. Alors, Jalen Green, moi, vous savez que je ne l'aime pas. Je continuerai à ne pas l'aimer. Ouais. Mais Van Vliet, je l'aime bien. Et c'est vrai qu'il dévisse beaucoup au shoot. Mais quand tu as des grosses exigences défensives comme celle des Rockets.
Ils sont jeunes, il y a quand même un écart sacré entre Van Vliet, Dylan Brooks.
Ouais. Ok. Donc c'est l'heure de notre pause musicale. Donc vous avez encore 2 secondes pour vous inscrire au concours Money Time Gift sur notre page
Facebook. Je
vais chanter
une chanson si tu veux gagner du temps.
Allez, c'est parti. On fait une petite pause musicale avec Jack Harlow qui nous parle justement de Denver.
Past a homeless in a Rolex. Just got off the stage on the Today Show and I basically felt soulless. Years go by and I keep saying I'm gonna use my phone less, but I should just be phoneless. Ignorance is bliss and so is being underground, cause it was fun when we were known less. Sorry, that's cliche, I know I'm so blessed, but Jason keeps on telling me say yes. And truth be told, I know he knows best, but I don't wanna do no press. I've seen enough of me on this little screen. I've become so vain and insecure about everything. I feel all this pressure to live up to what they tell me I'm gonna be. So I isolate myself, you can't help me, it's on me. I'm hiding any sign of weakness from my guys. I don't want them second guessing with me. Nemo said to keep my foot on next, cause I can't let them just forgive me. But the brags in my raps are getting less and less convincing. So I'd rather just... First verse in Denver, back in September. It's January now and I'm feeling like myself again. I got Angel back in here, I need his help again. I'm taking time away but wondering what a healthy helping is. Fuck it, they gon' check for me, I tell myself and tell my friends. Avoiding any talks about the elephant, chalking up the hate, the jealousy and just embellishments. But deep down I find myself wondering if the people that write about me are right about me. And I wonder if my exes are oversharing, cause they know a lot about me. I'm a long way from Shelby County. I've been through some local tension. Heard talks of a healthy bounty. Sober and focused, I cannot walk down no Delhi alleys. I still got the fellas round me. I love them and tell them proudly. My mama needs help adjusting. My father needs help accounting. I'm looking out heaven's window. I know that there's hell around me.
Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9 sur Compiègne, une émission cuisinée maison avec des produits frais et sains, mais par des mains sales.
Marty, tu as pu venir.
Oui.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait?
Toutes les questions recevront une réponse. Film, d'accord. Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le
temps. With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University.
June. Des figures les plus légendaires de l'histoire de la NBA et du basket. Un joueur incroyable, petit par la taille, immense par le talent, portant à lui seul plus de controverses que quiconque en NBA, mais un homme qui a changé l'histoire du basket et influencé la street culture comme personne avant lui. Allen Iverson, answer. On t'écoute, Doc.
Ok. C'est parti, Allen Iverson. L'enfant des ghettos devenu un héros de Philadelphie. Alors pour rien vous cacher, quand j'ai regardé un peu ce joueur que je connaissais en tant que basketteur, il n'y avait pas de souci. Et on va en apprendre un peu sur sa vie. Et sa vie, elle était vraiment pas drôle. Allez, c'est parti. Déjà dans les grandes lignes, alors il est né le 7 juin 75. Il mesure 1m83 pour 75 kilos. Bon, la dernière fois que j'ai vu mes 75 kilos, j'étais pas majeur, je vous l'annonce. Alors, il est numéro 1 draft en 96 par les Sixers. Il est MVP en 2001, rookie de l'année en 97, 11 fois All-Star, 4 fois meilleur scoreur de la Ligue, 3 fois meilleur intercepteur, 3 fois All-First NBA Team. Voilà, une médaille de bronze au JO avec Team USA. Voilà ce qui était bien de Allen Iverson. Maintenant, préparez vos mouchoirs, on y va.
Alors, on tient à le préciser, on a parlé stade, on a parlé carrière très rapidement. Iverson n'est pas le joueur qui a le plus grand palmarès en NBA, loin s'en faut. Par contre, effectivement, sa life, c'est un roman.
Ah, sa life,
tu nous en parles un petit peu? Ouais, sortez les Kleenex.
Mais c'était un super joueur, enfin, c'était un king. Alors, son enfance, donc il est né en 75, d'une mère seule, il connaîtra jamais son père. Donc le quartier dans lequel il vit, c'est un quartier miséreux au possible. Il vit sans chauffage, sans nourriture. Quand il se nourrit une fois par jour, c'était les grandes journées.
C'est Hampton en Virginie, la ville. Je vous invite à aller visiter. C'est ça.
Et il a qu'un rêve, c'est lui qui l'annoncera, c'est de rendre le quotidien meilleur pour les siens. Mais autour de lui, tout le ramène au ghetto. Il devra sa dureté sur les terrains, son enfance très difficile. Pour info, son meilleur ami, il meurt poignardé et 7 de ses amis ne connaîtront pas l'âge adulte pour vous décrire un peu l'endroit où il vit. Et il nage dans le plus sombre des univers, la violence est omniprésente et la drogue également. À l'âge de 16 ans, sa mère le met à la porte et il vit chez son entraîneur de football américain à l'époque. Il rentre donc au collège. Et il remporte la même année, là il va devenir le V-Answer, c'est à cette époque-là qu'il va avoir son surnom.
Donc parce la que réponse la... pour les mauvais anglophones.
Ah, excuse-moi.
Ouais. The Answer, la réponse. Answer. Ouais.
Donc cette année-là au collège, donc, il remporte la même année le championnat universitaire de Virginie de foot américain en tant que quarterback. Sa vraie passion, parce qu'il faut savoir que c'est un passionné de football américain et qu'il a joué au basket, c'était que
parallèle,
ça.
En fait, ce qui est dingue, c'est que c'était parallèle. C'est-à-dire qu'il menait deux fronts sa carrière pour le football américain, où il a explosé les stats de son... C'était un nombre de touchdowns.
Par contre, ça, il y a plein de joueurs qui peuvent faire ça. Anthony Edwards, il a dit qu'il voulait faire ça.
Même un joueur de basket, Charlie Ward, qui pouvait se présenter à la draft
pareil.
NFL.
Donc la même année où il gagne donc ce titre de foot américain, il gagne aussi avec son collège le championnat de basket. C'était incroyable, avec des stades à plus de 35 points par match. Donc déjà à l'époque, il aimait bien mettre
quelques paniers.
Donc en fait, V-Answer, pourquoi? Parce que c'est son entraîneur qui l'a dit, que aussi bien en football qu'au basket, c'était la réponse à tous les problèmes sur un terrain. Et dès lors qu'il a ça de son entraîneur, il se fait tatouer sur son avant-bras droit V-Answer, qui gardera à vie.
Ouais, c'est son surnom. Hein. Ouais. C'est assez marrant, juste une remarque aussi sur son coach, sur ses coachs. Il y a un reportage qui est très bien qui s'appelle No Crossover, qui raconte sa vie. Et dedans, le coach dit. Non, mais Iverson, ça se passait très bien les 2 heures où il était sur le terrain. Le seul problème, c'était les 22 heures à côté. Quoi. Ouais.
C'était Larry Brand ou pas
c'était son vieux coach de lycée.
Au niveau, niveau études, il était ingérable. Alors, il y a un tournant grave dans sa vie en 93. Il a 18 ans et bon, dans un bar, il y a une petite bagarre qui éclate. Ça tourne très mal et il est écope d'une peine de 5 ans de prison. Mais il sort en conditionnel au bout de 4 mois, juste parce qu'il était excellent en sport et qu'il voulait lui donner une seconde chance. Voilà, et l'envoyer à l'université où il est pris à Georgetown. Donc, savoir que Georgetown, pour un mec qui fait 1m75, c'est quand même une blague, parce que c'est une fac de pivot.
Voilà, ils ont quand même sorti, le coach Thompson d'ailleurs, a sorti Morning, Mutombo. Ewing.
C'est vraiment une
spécialisé fac pour monter les carrières
donc,
des grands.
Tout le monde se demande ce qu'un mec d'1m80 arrive et fait là-bas. Donc il arrive et puis finalement il est pas mauvais parce qu'il fait 2 ans et il est élu 2 fois défenseur de l'année. Et puis il tourne à 27 points par match. Donc il est drafté en 96 aux Sixers en premier choix et il signe un contrat de 9 millions de dollars. Et là, ça va lui permettre de sortir sa famille du ghetto. Mais malheureusement, il ne va pas lâcher non plus ses vieilles connaissances. Et ça va faire jaser au niveau de la NBA, quand il va arriver en NBA, d'avoir gardé toutes ses vieilles relations. Ouais. Ça va pas aller dans son sens. Donc, son année de rookie, il tourne à 23 points, 8 passes et 2 interceptions par match.
C'est pas mauvais, hein.
Ouais. Et il faut savoir que sur ses 8 derniers matchs, tu sais, de saison régulière, à combien il tourne en moyenne ? 39 points par match. Sur les 8 derniers matchs de saison régulière, en tant que rookie, il tourne à 39 points par match. Ouais.
Et, annoncer le programme.
Ouais. Par contre, la NBA donc, va très mal apprécier l'homme, malgré le génie qu'il est sur le terrain, parce qu'il va amener la culture hip-hop qu'il représente avec des chaînes en or, des diamants, des bagouzes, des baggy pants, des saps XXL,
les
des bandanas,
ouais,
des
fameuses cornrows.
Et des tatous partout, parce qu'il est tatoué de partout. Donc il est très fashion. Et il va aussi amener en 2000-2001, tu sais, son fameux manchon là, sur le bras droit.
Ah oui.
C'est lui qui amène ça. Ouais. Ça va juste de la main jusqu'à l'épaule parce qu'il s'était cassé le bras. Donc il jouait avec un manchon pour le protéger.
Et ça devient un effet de mode aussi.
Et pour toute une génération américaine, c'est qui kiffe son style vestimentaire, ça devient le nouveau héros des temps modernes et il est quand même appelé à succéder en tant qu'image de la NBA à Jordan.
Alors
et ça, il y a un papy qui va pas aimer du tout.
Il y a cette action légendaire.
Ah, celle-là, elle est énorme.
Cette action légendaire où Jordan est face en défense à Allen Iverson.
Ça, c'est sa première saison.
Ah ouais, c'est sa première saison parce qu'il n'est pas encore tatoué partout. Enfin, il y a encore la place sur sa peau. Et il y a Jordan qui défend sur lui et il le cross, ils sont face à face et Jordan finit à 2 mètres de lui, enfin 2 mètres, j'exagère un peu, mais il finit largué alors que c'est Jordan, le meilleur défenseur de son époque, hein, Jordan clairement. Hein.
Ah, il part sur sa main droite, en fait, il fait un premier cross sur revenir sur sa main gauche, Jordan suit et là il le recrosse à droite avant de shooter et sur le deuxième cross, Jordan.
C'est ce que je vous fais tous les jeudis soirs, les mecs, les jeudis soirs, c'est bon. Okay.
Non, mais... Donc du coup, dans l'univers très propre de la NBA, l'énergumène détonne un peu. Quoi. Son attirail étiqueté street dérange les têtes pensantes et surtout David Stern, qui à partir de moment va essayer d'imposer un dress code. Et ça va marcher avec beaucoup, mais pas avec lui. Parce qu'il faut savoir qu'il n'a jamais tourné le dos à son passé. Partout où il se déplace, il part avec des amis, donc recommandable ou pas. Et l'enfant terrible du basket déboule à Oakland pour l'All-Star Game 2000 et il est entouré d'une horde de potes qui lui servent aussi de garde du corps. Et cette image restera comme une très mauvaise image de la Ligue. Donc il a gardé son côté bad boy, même en étant un héros. On est quand même dans une nouvelle mode de la NBA. Ouais. Où,
puis on va être dans cette époque de Malice at the Palace. C'est un peu la même époque où la NBA, en fait, elle a un peu gagné, entre guillemets, par la culture street.
Ouais.
Et alors, ça a commencé avec le Fab Five de Michigan, les shorts trop longs, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, avec Weber et tout ça. Mais Iverson, il vient apporter cette culture de la rue, il vient la ramener au devant de la scène en NBA et ça devient vraiment une marque de fabrique. Et, le côté un peu dark de ces années-là en NBA, Iverson et Rashid Wallace et d'autres, Ron Artest, c'est un petit peu leur héritage.
Ouais. Alors, Allen, doit être le successeur de Jordan, et comme Jordan a monté sa marque et autres, et ben, lui il va signer un contrat de 50 millions de dollars avec Reebok. Ouais. Et de là, ça va lui monter un peu trop à la tête. Alors sa meilleure année, c'est l'année 2000-2001 où il va être MVP de la Ligue. Alors il faut savoir que c'est le plus petit et le plus léger de l'histoire MVP de
Ligue de mastodonte.
NBA. Et il a emmené sa team en finale NBA où il perdra 4-1. Mais alors dans le match 1 que Fila
arrache,
il marque 48 points, mais ce sera pas assez pour l'emporter sur Kobe et Shaq,
alors,
les Lakers.
Là, Bruno, je te laisse, vas-y, narre-nous là, cet épisode, justement, ce deuxième cross légendaire d'Iverson.
Sur Tyronn Lue, l'actuel entraîneur des Clippers, et c'est une image légendaire. Mais en plus, il faut voir le contexte, parce que les Lakers, ils étaient invaincus pendant les playoffs. Ils arrivent match, invaincus en finale.
Ils étaient à 12-0.
Le premier match qu'ils perdent, et c'est le seul match des play qu'ils perdent pour être champion. C'est contre ces Sixers-là, mais il faut que, voilà, que Iverson il sorte un match à 50 pions, 48.
Tu 48. Alors Iverson, sur cette action, il crosse en fait Tyronn Lue qui défend dessus. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'il met le shoot derrière, et au lieu de contourner Tyronn Lue,
il l'enjambe
en fait. Donc cette image, elle est restée vraiment
chercher ça, mais c'est impressionnant.
Alors, pour terminer sur...
Attends, j'ai bossé, quoi. Oh, merde. Alors, la suite, après, elle est plus sombre. Là. C'est pareil, c'est toujours Iverson. Il y a eu le très, très beau, et après, la suite est plus sombre. Il est toujours en clash avec sa direction et son coach, qui, en fait, il est ingérable dans un vestiaire. Et il partira en 2006 aux Nuggets rejoindre Melo, Carmelo Anthony. Et puis, après, il a fait d'autres franchises, dont Détroit. Ouais, fallait que je le cite, quand même.
Oui, bien sûr.
Et il fera un retour à Philly en 2009, toujours acclamé comme un héros, mais... Il aura perdu de sa verve, hein. Il n'y jouera pas longtemps, car sa fille aussi va tomber malade et il partira à son chevet. Pour preuve de sa popularité, il n'a pratiquement pas joué avec Philly cette année-là, mais alors il est plébiscité au All-Star Game en 2010. Il est plébiscité par le public de Dallas et il est dans le 5 alors qu'il n'a pratiquement pas joué.
Ouais, c'est fou.
Et, alors après, il part s'exiler en Chine, en Turquie, sans grand succès. Hein. Mais par contre, c'est là qu'il va commencer tous ses excès surtout au niveau de l'alcool. Après, pour finir sur des notes positives, le 30 octobre 2013, il met fin à sa carrière. Et le 1er mars 2014, lorsque son célèbre numéro 3 rejoindra le plafond de la salle des Sixers sous les yeux de Moses Malone et Julius Erving, deux autres légendes de la franchise, contre, il déclara... C'est chez moi ici, je suis Philadelphie et Philadelphie c'est moi, je serai un Sixers jusqu'à la mort. Donc, bel déclat. En 2016, accompagné du chat qui rentre au Hall of Fame et Philly lui offre sa statue devant le centre dans l'entraînement des Sixers. Et sa phrase préférée, enfin moi celle que j'ai retenue pour bien le résumer, c'est I am what I am, je suis ce que je suis, donc vous me prenez comme je suis ou alors vous me prenez pas. Et cette phrase ponctuera sa carrière. Mais alors, quel joueur ! Puis il a permis aussi à tous les petits, Pascal, de se sentir utile sur un terrain de basket.
Exactement, voilà. Ce que j'allais te dire.
Mais c'est vrai. Parce qu'on a toujours rêvé, même moi, quand j'étais gamin, je rêvais de David Robinson. Mais Iverson, c'est le mec, c'est un peu comme des Curry. C'est des mecs qui te font...
À taille humaine.
Voilà, à taille raisonnable. Et du coup...
Tu peux t'identifier.
Alors j'étais un peu plus vieux quand je...
Puis ce maillot-là, quand il jouait aussi à Denver, tu sais, le maillot un peu...
Ouais,
bleu ciel.
Très sympa.
C'est aussi tout, c'est la fashion.
Mais on l'a dit, Iverson, en fait, c'est vrai que c'est plus une légende. Enfin, il y a ce talent inné, parce que c'est vrai que c'est au niveau de la rapidité, des crosses, etc. C'est quand même dantesque. Il a une détente hallucinante.
Parce qu'il se matchait dans tous les sens au début.
Il pétait des dunks, mais sur la tête des pivots régulièrement.
D'aller sur un mec qui faisait 2-15,
Et par contre, c'est ce qu'il a fait. Il a fait volontairement le fait de réduire ses dunks, mais c'est un peu ce que Ja Morant apparemment a annoncé.
Oui. Pour moins
prendre de coups et pour pouvoir marquer plus de points et
parce qu'il est attendu dans la raquette.
Ça bouffe de l'énergie.
Et il y a un truc rigolo, c'est on parlait de son influence culturelle. Par exemple, les cornrows, c'est dread là, qu'on retrouve chez plein de joueurs aujourd'hui. On parlait de Josh Hart qui a ça aujourd'hui. Iverson s'amusait en disant, quand je suis arrivé, les cornrows étaient interdites en NBA, hein, parce que c'était un élément de la culture un peu gangsta. Ouais. Et il disait, mais il y a quelques jours, j'ai croisé un flic dans la rue et le mec avait des cornrows comme ça.
C'est et même dire. La coupe afro, c'est déjà, quand il dit, y a toutes ces coupes-là, ça a libéré un peu toutes les...
En tout cas, allez voir des highlights d'Iverson, voir Rex Hagel. Enfin, ce type est un roman du basket avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est un peu comme des Butler, des gars qui ont des parcours de vie ultra cabossés. Mais Iverson a symbolisé une NBA totalement différente de celle qu'on connaissait auparavant.
Oui, et puis il a fait venir un peu cette culture hip-hop.
Et exactement, les chaînes, et la musique, tout ça.
Mais après, pour avoir écouté quand même pas mal de ses entraîneurs, dont Larry Brown, il a quand même avalé quelques couleuvres pour le laisser jouer.
C'était très compliqué.
C'est difficile à gérer.
Ok, il est l'heure de notre pause musicale. Merci en tout cas Mehdi pour cette leçon d'histoire passionnante et merci pour vos interventions. Sachant quand même que Bruno arbore fièrement dans ce studio le maillot d'Allen Iverson. Ouais. On le mettra en photo sur Facebook quand même parce que c'est... Voilà.
Le maillot, hein.
Oui.
pas ma gueule.
Ok. Allez, c'est parti, un peu de rock. Écoutez Money Time sur Radio Graphite 94.9, Money Time, l'émission qui met à la retraite le Père Noël, qui licencie la petite souris et qui met au placard la petite poule de Pâques. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, rubrique suivante. Alors... Messieurs.
C'est cosy.
Ouais.
C'est goûtu. Un petit thé.
Un petit thé.
Il est temps de tirer au sort l'heureux ou heureuse vainqueur du Money Time Gift, parce que Noël approche et qu'on aime bien faire des cadeaux. Et donc, pour ça, attention, roulement de tambour.
Ah non, j'en ai un jingle.
Ah merde. C'est bien fait.
Alors, attention, c'est un vainqueur que nous avons.
Yeah.
Et c'est Clément qui remporte la chemise des Golden State Warriors. Bravo Clément.
Bravo Clément.
Clément, du coup, bah, pour récupérer ta chemise, eh ben, on va te contacter sur Facebook. On te dira quand, dans un parking à 4 heures. Voilà, comme ça.
Avec la valise hein, qui va bien.
Avec la valise, avec l'argent dedans. Donc voilà, donc, Clément, bravo, bravo à toi. On est content de t'offrir ce magnifique, cette chemise Mitchell & Ness. Voilà, qui nous est offerte par la marque.
Elle est belle en plus.
Et on remercie Thierry, qui est notre Père Noël. Voilà.
Merci Thierry. Merci.
Allez, il est temps de passer à la rubrique de Bruno. Dans cette rubrique, on vous propose de décrypter le graphisme des logos mythiques de l'univers NBA. Et comme notre revainqueur a remporté la chemise des Warriors, bah Bruno va nous parler de l'histoire de cette vieille franchise et de son logo, qui a bien changé à travers le temps. Allez Bruno, on t'écoute.
Ouais, je vais vous parler donc de l'histoire et de l'évolution du logo des Golden State Warriors. Donc littéralement, en français dans le texte, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est les guerriers de l'État doré. Et déjà une petite anecdote sur le... On parle souvent de la Dub Nation... Donc les fans des Warriors, je sais pas si vous avez une idée pourquoi c'est dub.
Non.
C'est assez bizarre en fait. C'est au début les fans pour raccourcir le nom, ils appelaient la franchise W. Et après ça fait en argot le W, ça fait dub E U. Et ça s'est revenu à dub. Donc ils sont arrivés à la Dub Nation. Donc faut.
Ça peut encore évoluer. Ça peut devenir.
C'est de l'argot un peu américain. C'est particulier quoi. Ils sont arrivés donc à la Dub Nation, donc la dernière mise à jour du logo des Warriors, ça date de 2019, notamment avec le déménagement et le retour à San Francisco et le déménagement au Chase Center. Et en fait, il n'avait pas beaucoup changé depuis le précédent qui datait de 2010. Et bon, globalement, on peut dire que c'est une équipe qui a toujours joué avec le jaune doré de Californie et le bleu royal des Warriors. Et il y a quand même eu 11 logos. Donc le premier, il date de 1946, donc ouais, une vieille franchise.
Alors celui-là, il est rigolo, hein. C'est un vieil Apache.
Ouais, donc c'était bien, c'était les Golden, en 46, ils ont été fondés à Philadelphie. Donc c'était les Philadelphia Warriors, en hommage à l'ancienne équipe de basket de la ville, qui s'appelait comme ça. Et ils ont commencé à porter ce premier logo en 47. Donc c'est une figure d'un dessin animé d'un Amérindien, dessiné de couleur bleue. Sur sa tête, il y a une plume jaune, dont la pointe est également bleue.
Donc on retrouve les couleurs du logo,
Et il dribble avec un ballon de basket qui était plutôt
orange,
jaune orange, ouais. Et sur celui-ci, il y avait quand même trois lignes bleues encore. Et puis bon, en travers de l'image, on voyait Warriors. En 52, donc les Philadelphia Warriors, ils changent encore leur logo. Ils conservent le petit Amérindien là. Cette fois-ci, il dribble toujours avec son ballon de basket. Il a la couleur jaune. Disparaît au profit du bleu. Et le mot symbole Philadelphia Warriors en travers avec Philadelphia, et puis tu as une bannière dérivée avec le W là pour reprendre, c'est écrit Warriors quoi. Ça fait Philadelphia Warriors et là il est tout bleu quoi. En 62, ils déménagent dans la baie de San Francisco.
Pour... Ça devient les San Francisco Warriors.
Donc là ça devient vraiment les San Francisco Warriors, on s'approche de Golden State. Donc ils modifient à nouveau leur logo. Donc là, l'Amérindien disparaît, mais ils gardent un peu la
coiffe. Alors,
ouais, la coiffe, c'est un peu bizarre. Ils appellent ça une têtière indienne. C'est un peu le chapeau là des chefs indiens comme on voyait dans le western, qui est donc avec des lignes bleues et blanches sur un fond jaune et entouré pareil de.
Là, on a vraiment les couleurs qui vont garder.
Ouais, c'est ça, le bleu. Bleu, jaune, sur fond blanc.
C'est une pièce de 1 euro, ton truc. Là.
C'est les couleurs de la croissance.
C'est vrai, t'as une petite finesse là dans le Warriors, dans ce logo-là. Ce qui est rigolo, c'est que t'as une petite flèche.
Le I, c'est une flèche.
Le I, c'est une flèche, quoi.
Ok.
Bon, bah ça dure jusqu'en 1969. Et à partir de 69, là, on se rapproche, en fait, c'est rigolo, du logo actuel.
Ouais.
Mais il n'a pas duré trop longtemps, quoi. De 69 à 71, à peu près.
Alors, c'est là qu'est, c'est rigolo, parce que le symbole, là...
Du Golden,
Golden
donc,
Gate.
Là, ils utilisent voilà, le Golden Gate Bridge de San Francisco.
Très connu.
Et ouais, c'est avec écrit au-dessus The City en bleu. Donc un rond jaune.
Qui va être repris, du coup, aussi lors des Mayo City Edition.
Voilà. Ils aiment bien le réutiliser.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment le logo qui se rapproche plus du logo qu'on connaît maintenant. Ensuite, ils partent dans un truc un peu bizarre. Il y a trois séries de logos, là.
Après, c'est pas beau. Hein.
Ouais.
C'est ça ressemble à une terrible. Vieille chaussette, là.
Ouais. Bah, c'est
une vieille chaussette sur un ballon, en fait.
C'est la forme de l'État, je crois.
La seule nuance, c'est que là, la transition, c'est qu'on voit que ça passe à Golden State Warriors, quoi.
Ouais.
C'est à partir de 72 qu'ils s'appellent vraiment les Golden State Warriors parce qu'ils déménagent vers Oakland. Et là, on a l'État de Californie.
Ouais.
Avec une étoile bleue qui représente la Bay Area. Alors, certaines sources, on voit qu'il y a un 14. Bah, là, sur celui qu'on a dans la salle, là, il n'y a pas de numéro 14, mais je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai pas réussi à trouver une source qui m'explique d'où ça venait, le numéro 14, là, des fois indiqué. Et en tout cas, ça évolue comme ça au cours jusqu'en dans 1997, avec soit... ça, c'est une forme de ballon de basket.
Là, c'est le logo qui détonne un peu parce que t'as, clairement, les couleurs ne sont plus les mêmes.
Ouais.
Que t'as du orange qui vient remplacer le jaune.
Ouais.
Et ils repartent un petit peu sur le délire du début, quoi, parce que c'est un guerrier en fait, qu'on voit.
Hein, c'est
pas guerrier amérindien. Si, ça, il a une flèche en fait, si tu regardes bien.
C'est un
éclair.
Ouais.
Ça, c'est celui de. Ouais, c'est celui de 98.
97 à 2010, celui-là. Ouais.
Donc là où...
Alors les joueurs de l'époque, celui d'avant, on est sur du Chris Mullin, tu voulais en faire un spécial de Chris Mullin, de Run TMC, Mitch Richmond, Tim Hardaway. Là, on est sur du Baron Davis et du... Josh Richardson,
Dunker fou.
Ouais. Voilà, avec celui-là, le 98, ils ont fait un truc vraiment assez vraiment différent par rapport à leur histoire, parce qu'on a un Warriors qui est vraiment un truc un peu orange, un contour bleu et rouge foncé, et puis le W de Warriors, il est étendu tout au-dessus avec un éclair. Et qui est tenu par un homme masqué bleu derrière lui.
Ouais, on ne sait pas trop dire ce que
ouais,
c'est.
Ouais, on
ça ressemble
pas
entre le guerrier spartiate et l'indien.
Et ça, ce logo, il est quand même utilisé jusqu'en 2010.
Ouais.
Alors, c'est vrai que vous avez l'air de dire que c'est celui que vous avez aimé bien.
Moi, j'aime bien celui-là.
Bah, parce qu'on ne va pas se mentir. Clairement, le logo des Warriors et le maillot, pour moi, c'est un des plus laids de la NBA.
Pas...
Non ? Je suis méchant.
Mais c'est des 1 qui se vend le plus. Hein.
Ouais.
Ouais, parce que
surtout avec un numéro 30 dessus.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais moi, j'ai toujours trouvé ce logo assez dégueulasse. Surtout que j'ai connu, moi, le logo avec le ballon et l'espèce de chaussette qui est l'État, en fait.
L'État de Californie.
L'État de Californie qui est fait dessus. Moi, je le trouve pas très beau. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux.
Après, le logo actuel, il est quand même chouette.
Voilà, ouais. Depuis 2011, ils sont revenus au logo, en fait, des années qui revient un peu des années 70, là. Sauf qu'on voit plus le pont entier. On voit que l'Est Bay Bridge, en fait, c'est une seule partie du pont.
Okay.
Et puis, donc, c'est toujours le même style. Le même style.
Mais bon, c'est un retour un peu aux sources. On voit que le logo... C'est marrant de voir les logos, comment ils évoluent, comment parfois ils se détachent, puis ils reviennent un peu aux origines. Parfois, il y a Utah qui l'a fait aussi. Bon, parce que l'Utah, c'est un
jazz. Je trouve que c'est souvent les franchises... bon, là, c'est pas vrai ce que je veux dire, mais c'est souvent les franchises de seconde zone.
Ouais,
c'est qu'ils changent beaucoup leur logo.
Les Celtics n'ont jamais fait.
Pour exister.
Et il y avait quasiment. Ouais. Ça, c'est vrai que
les Lakers, pareil.
Moi, ça me plaît, les Celtics, donc je me suis renseigné un peu sur le truc. Et c'est vrai que ça n'a pas bougé.
On en fera un spécial sur les Celtics.
Le petit Léprochaume, là, il n'a quasiment pas évolué. Et donc, voilà.
Ok. Merci en tout cas, parce que ça nous permet de voir un petit peu justement cette évolution si graphique de la NBA. Ça fait partie des aspects qu'on aime bien aussi évoquer. On enchaîne sur notre dernière rubrique. Le buzzer beater.
Allô ?
Ouais.
Est-ce que ça part ?
Ouais, ça marche pas.
Ah bah c'est pas grave.
Est-ce que ça passe ?
On peut chanter ?
Damien Lillard veut pas...
Be the butter.
Parce que je l'ai pas mis.
Appuie sur le bouton.
Ah là, c'est sur le bouton. Oui, donc c'est Damien Lillard. Voilà. Alors aujourd'hui, pour parachever toute bonne émission de Money Time qui se respecte, on a un buzzer beater. Et aujourd'hui, c'est la question que je vous pose, messieurs, avant de découvrir l'interview de Wani Mugwanguzi, un gars du coin, c'est qu'est-ce qui fait un bon coach ? Alors, en quelques mots, rapidement, pour vous, c'est quoi un bon coach ?
Ah, c'est une vague question, ah ouais, ça.
C'est une grande question.
Hein. Ouais. C'est une grande question. Alors, un bon coach, c'est quelqu'un qui sait gérer ses joueurs aussi bien au niveau du temps que mentalement, parce ouais. que c'est bien beau, mais si t'as une personne qui réfléchit, ça reste compliqué. Maintenant, un coach en NBA, ça n'existe plus. C'est un staff. Hein.
Ouais, c'est une équipe derrière.
Ils sont une dizaine. Mais après, tu vois, et après, il y a des bons coachs. Enfin, moi, je trouve des bons coachs de ce que je vois et qui n'y arrivent pas. Regarde Nick Nurse à Philadelphie. Il a quand même une étiquette d'excellent coach. Ouais. Et il n'y arrive pas. Donc,
Alors, c'est quoi ? C'est gérer le vestiaire ? Parce qu'il y a la partie tactique, etc.
En NBA, c'est quand même
le coach principal qui donne sa philosophie de jeu. On le voit avec Ime Udoka à Houston. On le voit avec Mazzulla à Houston qui donne des consignes très claires. Bon, c'est eux qui orientent la philosophie de jeu. Mais après, il y a cette difficulté, non ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est qu'une fois que tu as ta philosophie, il faut réussir à transmettre ton message auprès des joueurs, ce qui n'est jamais simple. Et là, il faut les faire adhérer. Et là, ils ne sont pas tous doués pour le faire.
Après, ce qui est bien dans leur système, c'est qu'ils jouent tellement souvent que quand ça ne va pas, bah, tu rejoues vite. Donc, ça peut vite oublier. Et quand tu es dans une bonne dynamique, c'est quand même assez simple de garder les gars, concernés. Mais après, tu vois, tu as l'autre côté, tu as Tom Thibodeau que tout le monde critique à peu près parce qu'on ne comprend pas pourquoi il fait jouer autant son 5 majeur. Mais les joueurs, ils restent. Tu vois, les joueurs, ils restent et ils l'aiment bien.
Parce que vous avez gardé des... On a parlé déjà de Derrick Rose, Joakim Noah, même Butler, qui l'ont eu. Ils ont gardé un bon lien fort avec ce coach.
Tyronn Lue, c'est pareil aussi. Pourquoi Batum, il retourne aussi aux Clippers. C'est aussi, il y a la famille et tout ça, mais il y a aussi le côté du coach Tyronn Lue,
Il ne s'est pas fait crosser par Iverson. C'est un très très bon meneur d'hommes qui arrive à faire adhérer les mecs sur son projet, surtout malgré les blessures. Aujourd'hui, les gars, allez, votre coach préféré ? Ou votre coach, pour vous, le meilleur coach en NBA ?
Ah, Spoelstra.
Spoelstra, je crois que c'est dire.
Alors,
Spoelstra, là où il est fort, c'est qu'il est capable de s'adapter très vite.
Il sort des joueurs, quoi.
Il s'adapte dans un match, de différents scénarios. Popovic.
Moi, c'est ce que j'allais dire.
Bah là, il est en plus.
T'as parlé de Nick Nurse. Tyronn Lue, moi, je suis très impressionné par son travail, Tyronn Lue.
Bah, Popovic, tu vois, c'est ça qui est contradictoire. C'est qu'ils arrivent à. Les Spurs jouent quand même bien, ils arrivent à se débrouiller. C'est là que tu vois que la franchise, enfin, l'organisation est quand même presque plus forte que le coach lui-même, quoi. Parce que même s'il est en arrêt maladie, qu'il n'est pas là.
Il a toujours donné beaucoup d'importance à ses
assistants.
Il y en a quand même beaucoup qui sont partis.
Steve Kerr, c'est une école de formation.
Ouais.
Regarde, au Paris Basket Club, il y a quand même un mec qui est passé par les Spurs.
Il fait un sacré travail.
Et il l'avait annoncé que ça lui a fait énormément de bien, qu'il a compris comment fonctionnait une équipe de basket. Et c'était chouette. Après, t'as les cas complètement inverses, le coach de Milwaukee, là, j'aime pas du tout.
Doc Rivers.
Mais pourtant, il est champion.
Il vit là-dessus depuis 15 ans. Il a gagné un titre en 2009 et il vit dessus depuis 15 ans.
C'est assez bizarre. Puis lui, je sais pas comment il continue d'avoir une telle aura.
C'est dur de faire des longues carrières en tant que coach.
Et après, tu peux avoir des bons coachs. Tu peux être un très bon coach et puis tomber à Utah, quoi. Tu vois, à Washington.
Washington, il fait pas d'effort, le coach.
Il pourrait un peu serrer la vis, quoi.
Je veux dire, il y a un moment, tu peux aussi.
Tu crois que le pire, c'est quoi ? C'est Washington ou la Nouvelle-Orléans ? Allez.
Mais à Nouvelle-Orléans, ils ont des excuses, ils ont des blessés.
Ils ont que des blessés, ouais.
Alors que Washington
tu vois, il pourrait serrer la vis à Poole. À Kyle Kuzma, là, qui font n'importe quoi.
T'as mis une balle perdue. C'est vrai qu'on n'est pas parlé de Jordan Allen. On a fait la seule émission et on a attendu la fin pour le faire. Ouais. Alors, messieurs, pour clore cette émission, moi, je vous propose... Alors, Rémi ne va pas assurer Can You Dig It ce soir. On est désolé pour les auditeurs de Can You Dig It. Mais du coup, on va déborder de 5 minutes. Et je vous propose d'écouter donc, l'interview qui avait été réalisée par Buffa et Anouk. Lors de l'Open de l'Oise au mois de septembre, de Wani Mugwanguzi, donc un gars du coin, comme on l'a dit, qui est coach de Landerneau dans la Ligue élite féminine et qui nous parle justement de son métier, de son approche justement. Donc c'est, on est parti pour 5 minutes d'interview que je vous propose de découvrir.
Money Time, que j'apprécie.
C'est une émission de basket qui s'appelle Money Time.
Un événement de qualité.
Par Money Time.
Money Time.
Wani Mugunguzi, j'ai 34 ans, je suis originaire du nord de la France. J'ai grandi entre Villeneuve-d'Ascq et Beauvais et je suis aujourd'hui entraîneur au Landerneau-Bretagne Basket. Il y a un fort engouement pour le basket en France, mais je pense depuis quelques années. Je ne sais pas si les JO on a déjà l'impact. Nous, on a la chance d'être dans une terre de basket où la salle est toujours pleine depuis des années. Mais en tout cas, je pense que ce qui s'est passé cet été avec Paris 2024, ce ne sera que positif pour le basket français.
En parlant des JO, qu'avez-vous pensé de la performance française aux Jeux Olympiques du coup ?
Pour moi, parler de la performance des Français, je vais commencer par les filles. C'est un peu douloureux parce que j'étais avec la sélection du Nigeria cet été en tant qu'assistant. Donc elles nous ont battu en poule. On va dire que leur dernier match de poule, le résultat nous a sorti d'un tirage plus favorable et nous a forcé à jouer les Américaines. Donc c'est pour moi, quand je pense à l'équipe de France féminine, c'est un peu douloureux, même si je suis vraiment heureux pour le basket féminin, qu'elles aient été si proches de battre les Américaines. Maintenant, pour les garçons, c'était une compétition totalement différente, un début très compliqué. Mais on a vu l'abnégation, la résilience, on a vu le don de soi, on a vu le support du public. Et on a vu que quand il y avait tout ça réuni, il pouvait y avoir des super histoires. Et je pense que c'était un très bel été.
Est-ce qu'on peut dire que l'équipe du Nigeria, au niveau féminine, on peut avoir sa place dans le dernier carré de la compétition, au JO ou pas ?
Je pense que quand on part avec le Nigeria, notre objectif c'est d'avoir une médaille et de jouer le dimanche 11 août. Je pense que si on ne joue pas les Américaines mais la Serbie comme on aurait pu l'espérer, je pense qu'on aurait pu arriver dans le dernier carré. Et après, on aurait croisé les Américaines en demi, mais sur la petite finale on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc il est là le regret parce que je pense qu'on avait l'équipe pour être dans le dernier carré. Ouais. Pour les entraîneurs, c'est un peu différent. Nous, on analyse un peu plus de choses, que ce soit les performances sportives, les entraînements, les datas sur la préparation physique. Donc nous, c'est des journées un peu plus denses où on commence en général à 8h et on finit souvent à 19h, 19h30.
Plus gros volume pour les coachs que pour les joueuses, au final.
Il y a un plus gros volume, mais après, voilà, c'est le job. Les joueuses, elles sont sur le terrain. Nous, notre but, c'est de les préparer au mieux.
Des sources d'inspiration dans le jeu.
Kobe Bryant comme joueur, c'est le joueur qui m'a le fait le plus aimer le basket. Allen Iverson que j'adorais aussi. Et après j'irai à l'intérieur Hakeem Olajuwon de par le travail d'appui qu'il pouvait avoir. En tant qu'entraîneur, les entraîneurs qui m'ont vraiment inspiré, il y a Greg Popovich de par son aura et de par ce qu'il était capable de faire. En Europe, Pablo Lasso au Real de Madrid, Vincent Collet forcément en France, et plus récemment j'aime aussi beaucoup ce que fait Laurent Villa, l'entraîneur actuellement de Strasbourg et qui était à Cholet avant, et voilà un petit peu mes inspirations en tant qu'entraîneur.
Et est-ce que vous avez connu Beauvais à l'époque où vous étiez encore professionnel ou... Ouais, on peut en parler un petit peu ou pas de ça?
Alors, mon regret avec Beauvais, c'est que j'ai commencé le basket en 2005. 2005, c'est l'année où Beauvais va descendre. Je crois que c'est 2004-2005 la saison. J'étais U15, deuxième année, c'était ma première année de basket. Donc, j'ai connu Beauvais en Pro B, pas longtemps, malheureusement. Mais voilà, ça a aussi contribué, je pense, à me donner l'envie d'aller vers le haut niveau.
D'où le choix après vers Villeneuve, enfin, grâce aux études aussi, Villeneuve-d'Ascq. Tout ce qui a suivi derrière en fait.
Ouais, exactement. Villeneuve-d'Ascq, c'était vraiment par rapport aux études. Mais une fois que j'étais à Villeneuve-d'Ascq et que j'étais tous les jours à la salle, j'avais vraiment l'envie de travailler dans le basket. Et au départ, je pensais pas être entraîneur, je pensais vraiment travailler dans les bureaux et me servir de mes études juridiques pour être dans les bureaux. Et un jour, c'est présenté à moi l'opportunité de basculer sur le terrain. Et il y a tellement d'émotions à vivre quand on est sur le terrain. L'Open de l'Oise, comme événement, est un événement qu'organise le comité de l'Oise maintenant depuis plus de 3 saisons. Un événement de qualité qui permet à nous, équipe de la Boulangère Wonder League, de nous préparer dans de très bonnes conditions. On a vu une salle comble encore aujourd'hui, on a vu une salle comble hier. Et je pense que c'est super pour les équipes. Nous, on a pu travailler comme on voulait, mais c'est aussi bien pour un comité comme l'OS qui n'a pas d'équipe féminine de haut niveau de pouvoir donner l'opportunité à des jeunes filles de voir des joueuses de haut niveau et inspirer, parce que c'est aussi un de nos objectifs d'être des rôles modèles pour les jeunes filles et leur donner l'envie de rêver, l'envie de réaliser ça et leur montrer que c'est accessible.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc.
Et oui, c'est la fin de cette émission. Donc, en tout cas, une interview très intéressante. On fait un petit coucou à Beufa, qui a été prisonnier d'une audition de Harpe de sa fille aujourd'hui et qu'on embrasse. Et donc, c'est le moment des dédicaces, les gars. Un petit coucou à quelqu'un en particulier?
Ouais, moi, je vais faire un coucou à Cyril. Je sais pas trop où il est. Je sais même pas s'il est rentré.
Paumé en Californie.
Il est revenu aussi.
Ouais, je sais pas s'il va revenir déjà, tu vois. Ouais. Mais voilà, un petit coucou et qu'il nous raconte tout ça en revenant.
Ok, Bruno?
Ouais, bon, un bisou, la famille, les classiques. Et puis voilà quoi.
Okay. Ah, t'as bien bossé.
T'as bien bossé. De basket.
Moi, je fais un bisou à Mathéo, mon fils préféré.
C'est le seul.
Ouais, c'est le seul, ouais. C'est vrai. C'est pour ça. Et qui m'a filé le Giancarlo pour vous mettre tout à l'heure, parce que j'essaie de mettre un peu de rap avec un peu de rock, hein, puisqu'on me disait que je mettais trop de rock au début. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 18 décembre prochain. Ouais. On vous filera le programme sur Facebook. Bon, à mon avis, il devrait y avoir un lien avec Noël. Hein. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne soirée.
Il y aura encore des cadeaux. Hein.
Bah, il y aura des cadeaux. Ouais, hein. Des cadeaux. Ah ouais. Il y a un bon blouson. Alors attention.
Ouais.
Il y a un bon Bombers Lakers à gagner.
Ouh.
Il va y avoir du monde, à mon avis, au Portillon.
Ah ouais, je pense que ça va liker. Là.
En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit à très bientôt sur Radio Graphite, sur Money Time. Ciao.
Salut les potos.
Bonne soirée.